une histoire particulière. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatiguée. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille, alors que certains donnent de moi l'image d'une vieille. J'avais 42 ans. Non, la seule fatigue que j'avais était celle de céder. Tels sont les mots de Rosa Parks que nous avons entendus hier dans le documentaire raconté par Nejma Bouakra et Véronique Lamandour. Rosa Parks, un visage, un acte, une femme qui dit non. Elle est pour toujours identifiée à ce geste qui refuse la ségrégation. Dans les livres d'histoire, nous savons que le 1er décembre 1955, elle a refusé de céder son siège à un blanc. Tout de suite, le second épisode.
Most of the time we spent together was talking about freedom and freedom of religion, freedom to vote, all freedom for everybody.
Comment s'appelle cette place?
Rosa Parks.
Rosa Parks.
Rosa Parks et ses sœurs de combat.
Bah, c'est une jeune fille aux États-Unis où dans le bus. Bah en fait, il y avait le racisme et elle voulait s'asseoir où là il y avait les blancs. Mais en fait, il y a une personne latino, après je sais plus.
On parle juste de Rosa Parks pour son action dans le bus contre la ségrégation. C'est une façon de l'avoir figée dans le passé. On s'arrête un peu au milieu du guet. Et ce n'est pas la manière dont on lutte aujourd'hui. Mais lorsqu'on la voit lutter contre la brutalité policière, pour l'aide sociale, ou sur toutes les questions associant la race et la pauvreté, lorsqu'elle parle de la ségrégation dans les écoles et de l'histoire des Noirs américains, toutes ces questions nous accompagnent toujours.
Jeanne Théo Harris.
Je ne crois pas que ce soit une coïncidence que la manière dont nous racontons l'histoire s'arrête à l'épisode du bus. Nous lui rendons hommage, mais nous ne rendons pas justice à la portée politique de son combat. C'est la construction d'une femme, celle de l'autocongratulation. Cette femme qui a été humiliée en 1955, regardez, elle a sa statue au Capitole. C'est la seule personne de la société civile en 2013. C'est un immense honneur, mais en dépit de ce qu'elle croyait, elle raconte la fabrique du récit progressiste américain. Mais ce qu'elle a dit, elle, toute sa vie, c'est qu'il restait du travail et qu'il n'y avait pas de temps à perdre.
The wheels on the bus, they go round and round, and round the, back in 1955.
In Montgomery on City Street. En 1955, Rosa Parks s'est donnée à elle-même un droit qui lui est refusé. Cet acte de résistance physique est aussi tactique. Il déstabilise les forces en présence et vise les lois Jim Crow, fermant de la ségrégation dans les États du Sud. Et pour cela, elle se sait menacée. Des bombes explosent dans les églises baptistes et au domicile même des militants. L'ordre est donné de ne pas l'embaucher. Elle doit rester démunie, isolée. C'est une agitatrice. Elle a déjà mené des campagnes, notamment contre les agressions sexuelles vis-à-vis des femmes noires. Il faut la faire tomber.
Rosa was arrested 'cause a white man asked for her seat and she wouldn't give it up.
Les États-Unis s'embrasent. Rosa Parks traverse le pays pour des prises de parole avant de rejoindre la Convention nationale de la NAACP, l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur, à San Francisco. Elle est épuisée. Sans sommeil.
About 6 o'clock in the afternoon, I boarded the bus downtown Montgomery on Coates Square. As the bus proceeded out of town,
Rosa Parks from an April 1956 recording from the Pacifica Radio Archives.
Je quittais New York pour me rendre à la convention nationale de la NAACP à San Francisco. Là-bas, un entretien avec un journaliste avait été organisé. Je fis de mon mieux pour répondre à ses questions. Je me souviens qu'une des premières choses qu'il me dit fut « Ne me regardez pas comme ça ». Je pense pourtant que je ne le fixais pas de manière malpolie. Cette situation me rendit très nerveuse. Avec beaucoup d'arrogance, il lança qu'il allait me prendre à part pour voir ce que j'avais dans le ventre. Il essayait clairement de m'intimider, et il y arrivait. Je ne sais pas pourquoi j'ai craqué à ce moment-là. Quelqu'un me raconta que Offinlessy avait eu beaucoup de mal à garder son calme et son sang-froid, tandis qu'elle se battait pour pouvoir s'inscrire à l'université d'Alabama. On m'expliqua qu'elle était détruite et à bout de nerfs. C'est ce qui m'arriva ce jour-là.
Une problématique ne la quitte pas de toute sa vie. Changer les lois. Rendre la loi opérationnelle pour les Noirs, car la plupart du temps, les Blancs ne sont pas inquiétés pour leur brutalité et les viols qu'ils commettent ne sont pas punis. La plupart des gens se détournent de ces questions qui ont un rapport avec la violence sexuelle. Dans les années 30, la NAACP ne souhaite pas non plus traiter ce genre de cas qui ont une connotation sexuelle.
Il y a une partie de la communauté noire qui sera prise dans ce qu'on appelle la politique de la respectabilité. C'est-à-dire de se dire que si nous sommes respectables, si nous comportons bien, si nous avons une vie semblable à la vie bourgeoise blanche, patriarcale, nous serons respectés. Étant respectables, nous serons respectés. Évidemment, ça ne se passe jamais complètement, on n'est jamais totalement respecté, mais ça fait partie des techniques de discipline raciale.
Françoise Vergès.
Il y a beaucoup de critiques qui sont faites aussi au moment de la Harlem Renaissance contre les femmes qui vont dans les cabarets, qui chantent, qui dansent, qui ont, elles sont jeunes, elles vont avoir une vie joyeuse et dont une partie de la classe bourgeoise noire sera très critique envers ces femmes en disant que justement elles donnent une mauvaise image de la communauté noire.
Aniel Hatton, Rosa Parks, elle aide à formuler les plaintes au pénal. Elle est la dépositaire des violences que vivent les Noirs américains à cette époque de la ségrégation. Donc son rôle est crucial, si on y pense.
C'est un rôle crucial, ça c'est sûr. Elle était consciente qu'il fallait mettre par écrit tout ce qui se passait, qu'il y ait une mémoire des faits ignominieux qui se passaient à l'époque. Parce que si on ne le mettait pas par écrit, ça allait passer sous silence, on allait oublier tout ça. Les lynchages, les viols, les licenciements abusifs, et puis ces agressions au quotidien des femmes nord-américaines.
Ensuite, quand elle milite à la NAACP, elle s'occupe notamment de lever des fonds pour financer les avocats. Donc elle a toujours fait en sorte que les accusés noirs soient défendus par les meilleurs avocats possibles.
Charlotte Dugrand.
Enfin voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a toujours agi dans l'action. Peut-être moins que certains autres membres, notamment des hommes qui étaient beaucoup dans le discours. Elle était moins médiatique, elle prenait moins la lumière, elle n'était pas devant. Mais par contre, derrière, elle s'activait vraiment pour que cessent les injustices.
Rosa Parks constitue les archives de cette période de la ségrégation et on parle beaucoup à cette époque des lynchages, mais beaucoup moins des viols que vivent les femmes noires américaines. Récite Taylor.
C'est une femme qui a été violée par des hommes blancs sans qu'elle puisse ensuite être aidée par qui que ce soit, mais c'est un cas parmi beaucoup d'autres. Beaucoup de femmes noires étaient agressées, violées et laissées pour mortes, parfois même tuées, par des hommes blancs sans que justice ne soit faite. On ne les retrouvait pas, c'était des femmes qui étaient après laissées dans un fossé, jetées dans une mare, on les retrouvait pas.
My skin is black, my arms are long.
Les femmes noires ont très vite dénoncé les violences sexuelles dont elles étaient victimes. Et là, très tôt été question de Ida B. Wells dans sa dénonciation de lynchage. Elle parlera de ce qui est fait aux femmes. Mais de nouveau, ce n'est pas entendu. Mais les femmes noires savaient la fabrication de la précarité et de leur vulnérabilité passait aussi, et la violence sexuelle en était un des outils.
I said to him,
how I hated all white people, especially him.
Je lui ai dit que je détestais tous les blancs.
I said I would never stoop so low as to have anything to do with
him. Je lui ai dit que je ne m'abaisserais jamais à avoir quoi que ce soit à faire avec lui.
I asked him if the white women were not good enough for him.
Je lui ai demandé si les femmes blanches n'étaient pas assez bien pour lui. Et je lui ai dit que c'était tant pis pour lui s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle.
On retrouve dans ses cahiers une fiction. On ne sait pas tout à fait si c'est une fiction où Rosa Parks évoque le fait qu'elle-même ait pu être victime de violence. C'est une histoire qu'on raconte peu.
Oui, c'est une histoire qu'on raconte peu. Et Rosa Parks a été victime de violence. Et elle en parle. Et il est vrai, ça fait partie de ces choses, de nouveau, d'étouffement à l'intérieur même du mouvement dans lequel vous êtes, de votre parole et de votre expérience.
Je me tenais là sans bouger. Le chauffeur se tenait à côté de moi et répétait « Descends de mon bus ». Ce à quoi je répondis « Je vais descendre ». Je pense qu'il était sur le point de me frapper et je lançais « Tout ce que je sais, c'est que vous feriez mieux de ne pas me toucher ». Il ne leva pas la main sur moi et je descendis, entendant une voix dans le fond « Pourquoi elle ne fait pas le tour pour monter à l'arrière ?» Je pense que les passagers noirs étaient fatigués de retour du travail et voulaient tout simplement rentrer chez eux.
Nous sommes en 1943, une dizaine d'années avant que Rosa Parks, face au même chauffeur de bus, refuse d'obtempérer. « J'ai été bousculée toute ma vie », écrira-t-elle. Les stratégies pour rester en vie sont multiples, mais Rosa Parks a la sienne chevillée au corps. « Je préfère être lynchée que de vivre pour être maltraitée et de ne pas pouvoir dire non ». Elle n'est pas la seule à choisir la dignité. Ses sœurs de condition résistent, une par une et collectivement.
Elle n'était absolument pas la première. Il y avait eu quelques personnes, spécialement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, 10 ans avant elle. En 1944, par exemple, une femme qui s'appelait Viola White a refusé de laisser sa place dans le bus et a été arrêtée et battue. Puis, elle décida de poursuivre l'affaire en justice. En réponse, la police viola sa fille. Et elle s'est battue, jusqu'à ce que son affaire aille à la Cour suprême. Mais Viola White est morte avant que son affaire aboutisse. Une adolescente de 15 ans, qui s'appelait Claudette Colvin, en mars 1955, a refusé de laisser son siège à une femme blanche dans un bus. Il y a eu d'abord une énorme protestation dans la communauté noire de Montgomery quand Colvin a été arrêté. Et les gens se mobilisèrent. Mais plusieurs événements se produisirent.
Claudette Colvin faisait partie de la section des jeunes de la NAACP. Et donc elle avait suivi aussi des formations au sein même de la NAACP. Un jour, elle est dans le bus et elle se retrouve dans la même situation que Rosa Parks. Et elle refuse de donner son siège. Donc la police vient la chercher, elle est sortie du bus, mais elle réagit en criant « C'est mon droit, ce sont mes droits constitutionnels, j'ai tous les droits ». Elle se débat.
Colvin n'est pas seulement arrêté pour avoir refusé la ségrégation, mais aussi pour trouble à l'ordre public, violation des lois sur la ségrégation. Coups et agressions contre un policier. Ils ont mis la main sur elle quand ils l'ont sortie du bus. Elle s'est débattue, elle a griffé. Il y a 3 inculpations, c'est stratégique. Le juge, dans le cas de Colvin, je pense, percevait l'occasion qui leur était offerte pour remettre en cause la loi sur la ségrégation. Il abandonne l'inculpation pour avoir enfreint la ségrégation et le trouble à l'ordre public. Et elle est seulement poursuivie pour avoir attaqué un officier. Donc c'est plus dur de faire monter politiquement son cas.
Et puis aussi, il y avait une chose, c'est que le groupe qui préparait ses actions a découvert qu'elle était enceinte. Elle avait 15 ans, elle était enceinte hors mariage. Bon, il fallait quelqu'un pour pouvoir porter le mouvement. Il fallait quelqu'un qui soit entre guillemets, sans tâche.
Si si la presse blanche était emparée de cette information, elle s'en serait donnée à cœur joie. Claudette aurait été traitée de traînée et l'affaire n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Il fut donc décidé d'attendre de trouver une autre plaignante qui serait irréprochable à tout point de vue avant d'investir de l'énergie et de l'argent.
Alors Marie-Louise Smith, elle, c'était plutôt que était d'une famille où son père était alcoolique. Et donc, ça faisait mauvais effet aussi. Et donc, quand Rosa Parks est arrivée, justement, c'était la personne idéale. Parce qu'elle avait une vie rangée, une vie tranquille. Elle était couturière, elle travaillait tout simplement sans se faire remarquer.
Elle le sait, Rosa Parks, puisqu'elle note dans ses cahiers qu'elle est la bonne personne. Elle est parfaite. Pour cela, elle dit, voilà, ma seule faute, là, c'est d'être noire, ce jour-là.
Et puis, il y a une autre chose. C'est la classe sociale de Rosa Parks. Elle appartient à la classe ouvrière et travaille dans un grand magasin. Son mari est un coiffeur sur une base aérienne.
They live in the projects. So they're solidly working class, and in
fact, ce sont des travailleurs et la classe ouvrière noire du côté ouest de Montgomery, qui sera le noyau dur du boycott, se rallie derrière elle. Ils se reconnaissent en elle. Mais Rosa Parks s'habille de façon très classique. Elle a une apparence publique très sage et elle a un genre de comportement très proche de la classe moyenne, même si elle n'en est pas et qu'elle n'est pas allée à l'université. Les gens se sont retrouvés en elle. Elle traverse les différentes classes sociales. Et cela aussi a contribué à galvaniser les gens. Tout d'abord, les gens ne se soulèvent pas à la première injustice. C'est un phénomène d'accumulation. Et on ne doit pas sous-estimer l'importance des précédentes arrestations de Colvin et Smith. C'est ce qui va conduire à la protestation. La deuxième chose, c'est qui est Rosa Parks. Rosa Parks a 42 ans ce jour-là. Elle est mariée. Elle est un membre actif de son église. Et elle est politiquement engagée. Les gens ont confiance en elle. Et ils sont certains qu'elle ne va pas flancher sous la pression, comme n'importe qui d'autre, face à de telles poursuites en justice.
C'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Je le répète, c'était une militante. C'est pas du tout une femme choisie. Elle avait sa propre conviction, sa propre détermination. C'est pas une actrice, si je puis dire, prise comme cela. C'est pas une porte-parole. Elle sait pourquoi elle se bat et contre quoi elle se bat. Elle n'est pas simplement, une membre comme ça qu'on a choisie. Elle-même, elle a forgé ses convictions, elle écrit, elle parle, elle sait qui elle est.
Some people, some Americans in this period, basically purged people out of their movement.
Certains Américains à cette période ont exclu des gens de leur mouvement ou de leur milieu parce que ces derniers étaient suspectés d'être communistes. Et la NAACP à la fin des années 40 et début des années 50 s'est débarrassée de ceux qu'elle voyait comme des sympathisants ou des communistes. Mais d'après moi, elle, Rosa, elle n'a pas fait ça. Si les gens étaient prêts à travailler pour la justice et la liberté, elle était prête à travailler avec eux. Elle allait à Highland and Folk School, une école de formation pour les activistes, en 1955, 4 mois avant son action dans le bus. Et elle a maintenu un contact avec les gens de Highland. Mais vers la fin des années 50, cette école est marquée au fer rouge. Elle est accusée d'être un laboratoire du communisme et perquisitionnée par les autorités du Tennessee. Et dans ces années, elle maintient ses relations avec l'école. Elle continue à les aider à lever les fonds, même si c'est effrayant et dangereux. Elle ne se détourne pas des personnes de Highland.
Elle s'est engagée dans un combat de longue haleine qui va d'ailleurs avoir un impact sur sa vie personnelle parce qu'elle va perdre son travail. Elle va être obligée de s'exiler d'une certaine manière, de monter vers le nord pour pouvoir trouver un travail. Beaucoup de ceux qui ont participé au boycott seront licenciés, perdront leur travail, seront menacés de mort. Bon, je pense qu'elle était consciente de ce qui pouvait lui arriver. Mais c'est vrai que quand ça arrive, quand on se retrouve sans travail, quand on se retrouve sans rien, alors qu'on a fait une action qui est une action qui a un impact au niveau du pays tout entier, bon, c'est quand même quelque chose de difficile à vivre.
Elle a disparu de la mémoire publique. Mais elle a continué de faire ce qu'elle faisait auparavant. En fait, la manière dont on se concentre sur le Sud pour parler du racisme fait disparaître son action continue contre la brutalité, la ségrégation, le racisme, la guerre au Vietnam. Elle a une vision globale contre l'apartheid. Rosa Parks a juste continué. Mais elle est associée au récit du mouvement des droits civiques dans le Sud. Donc, quand elle le quitte, elle disparaît des radars.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Et en Alabama, un nouveau mot d'ordre circule à Birmingham. Une marche serait bientôt organisée sur la capitale de l'État, la ville de Montgomery.
Les 125 000 Noirs de cette ville ont l'intention d'aller déposer une couronne devant le palais du gouverneur. C'était hier les obsèques des petites victimes de l'attentat de dimanche. L'attentat, vous savez, dans une église baptiste fréquentée par des Noirs. Et notre reporter, Robert Cézé, était à Birmingham avec le micro d'Interactualité.
De la ville de Birmingham, dans l'église Saint-Paul notamment, pour relancer les manifestations antiraciales commencées il y a deux jours. Les forces de police sont en face. J'ignore si les policiers ont amené à pied d'œuvre aujourd'hui les chiens qu'ils avaient lancés hier contre les manifestants.
Yes, and how many years can a mountain exist? For it is washed to the sea.
Le 28 août 1963, entre 200 000 et 300 000 personnes venus de tous les États-Unis et principalement du Sud ségrégationniste, convergent vers Washington.
Rosa Parks, dans son autobiographie, dit qu'elle est régulièrement sortie de la marche sur Washington.
Mais c'est ça, moi, que j'ai trouvé choquant. Et c'était des jeunes, essentiellement des jeunes, qui voyaient cette petite femme, qui était connue pourtant, mais qui disent « t'as rien à faire dans la marche, tu n'as rien à faire là », et qui la repousse sur le côté.
La longue marche aura pris presque une décennie. Elle couronne un demi-siècle de lutte, de boycott, de protestation, tenue au risque et péril de la vie des Noirs américains, défiant la société blanche. Elle est dédiée à la mémoire d'Emmett Till, un adolescent de 14 ans, lynché, torturé en 1955 par des suprémacistes blancs du Mississippi après avoir prétendument sifflé et salué une femme par ces quelques mots « Bye, baby ». Une pluie légère tombe sur le front des manifestants, la chaleur est étouffante. 5 bases militaires sont en état d'alerte. 4000 hommes lourdement armés, répondant au nom de code « Inside », se tiennent prêts à intervenir. Ce 28 août 1963, le pasteur King prononce son discours « I have a dream ».
« leader of the movement, who in 1955, on December the 1st, would not get up when everybody else was getting up and give her seat to a white man. Come here, Mrs. Rosa Parks. The first lady of the movement.
As a very small child, I had to hide from the Ku Klux Klan to keep from getting killed or thinking I was going to be killed. My family were deprived of the land that they owned and driven off of it after they had worked and paid for it.
1965, the four-day march in Alabama. Les marches à Selma se succèdent, 20 km par jour. On dort dans les champs. On marche encore, bien que les droits civiques des Noirs aient été reconnus depuis 1964 par le Civil Rights Act. Mais les États du Sud refusent de se plier à la loi et d'inscrire les Noirs sur les listes électorales. Le Ku Klux Klan attaque et tue. La première marche est réprimée dans le sang. Un Bloody Sunday. 70 morts. Les militants des droits civiques lancent une seconde marche, puis une troisième. Rosa Parks, fidèle à elle-même, est présente alors que de nombreuses personnes lui déconseillent. Elle évoque l'activiste socialiste Mike Horton, la ténacité et le courage des militants non-violents ou pas. Car Rosa Parks affirmera à plusieurs reprises, elle ne tend pas la joue gauche si l'on lui gifle la droite.
Freedom, freedom, freedom now!
Elle fait la connaissance de Malcolm X en 1963. Il voulait la rencontrer. Il a parlé de deux personnes qu'il aimait dans le mouvement, Fannie Lou Hamer et Rosa Parks. En 1963, quand il est venu pour donner son « message to the grassroots » à Détroit, il a organisé un rendez-vous pour la rencontrer une première fois. Et puis juste avant qu'il soit assassiné, il la revoit. Ils ont une longue conversation. Elle parlera de lui comme de son héros personnel. Leur courage et ténacité les ont inspirés l'un l'autre. Il n'y avait pas de contradiction dans son admiration pour Martin Luther King et Malcolm X. Il n'y avait pas à choisir l'un ou l'autre. Et elle a participé à de nombreux mouvements. Elle disait, si je peux être utile, je viens. Merci à Jeanne Théouaris, professeure émérite de sciences politiques à l'Université de Brooklyn et biographe de Rosa Parks. À Françoise Vergès, politologue et militante. À Aniel Hatton, pasteur. À Charlotte Dugrand, éditrice. Avec les voix de Joël Marilly et Hélène Losseur. Prise de son, Laurent Lucas, Pierre Monteil, Valérie Lavalard, Bruno Mourlan. Mixage, Lidouine Caron. Rosa Parks et ses sœurs de combat, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Véronique Lamondour. Coordination, Christine Bernard.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour répondre à la question « Mais qui a vraiment écrit ? J'irai cracher sur vos tombes. » Mais c'est une autre histoire.